Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette émission de la série Croire d'hier à demain, produite par l'Institut de pastoral des Dominicains pour Radio Ville-Marie. Au microphone, c'est Francine Robert. Cette semaine, je reçois Monsieur Pierre Murray, qui est prêtre du diocèse de Montréal, qui est vicaire épiscopal de la région Laval-Repentigny. Il donne actuellement un cours sur le sacrement du pardon, un sacrement qui a connu une histoire mouvementée, comme nous le verrons, et qui encore aujourd'hui pose problème à bien des gens. J'ai donc demandé à M. Pierre Murray d'éclairer un peu notre lanterne sur ce sacrement mal connu et mal aimé. Pierre Murray, bonjour et bienvenue à notre émission.
Bonjour, Francine.
Merci d'avoir accepté de traiter pour nous d'un sujet qui n'est pas facile, le sacrement du pardon. Et là, je me corrige tout de suite parce que avant l'émission, vous me disiez que vous préfériez parler de sacrement de la pénitence ou du sacrement de la réconciliation. Mais tout le monde parle du sacrement du pardon, alors pouvez-vous m'expliquer votre préférence?
Ben, c'est pas tant une préférence personnel. C'est sûr que moi-même, j'ai intitulé le cours « Le sacrement du pardon » parce que c'est comme ça que dans l'esprit général, on l'identifie.
Oui.
Mais cette appellation-là nous met sur une fausse piste parce que ce qui est en jeu dans ce sacrement-là n'est pas tant le pardon, puisque le pardon, c'est une action que Dieu fait vis-à-vis de nous, que l'accueil que nous faisons de ce pardon et ce que ce pardon-là, cet accueil-là, initie en nous comme chemin de changement, comme chemin de conversion. Et c'est pour ça que le titre officiel du sacrement, jusqu'à Vatican II, a toujours été le sacrement de pénitence.
C'est vrai, je m'en souviens.
Voilà.
Ouais.
Et à Vatican II, on a trouvé le mot pénitence un peu trop raide, alors on a ajouté « et de la réconciliation », comme pour adoucir l'affaire.
Oui, parce que pénitence, c'était se mortifier, faire
voilà,
pénitence.
C'était très corporel, puis c'est « t'as fait une faute, je te mets en pénitence ».
Exactement.
Et, bon. Alors que, à l'origine, le mot pénitence, d'abord, il traduit le petit mot latin « pénitencier », qui lui-même traduit un mot grec « métanoïa », « conversion
mm-hmm. ».
Alors, c'est le sacrement de la conversion. C'est nous qui sommes interpellés à emprunter un chemin de conversion.
Et donc, ça n'est plus l'espèce de formalité, enfin, ça n'aurait jamais dû être de toute façon, espèce de formalité qui me lave de mes péchés, mais quelque chose qui indique un processus qui précède le sacrement, qui suit le sacrement, qui est un processus de conversion.
Voilà, et qu'un processus qui, à la limite, dure toute la vie. On a inaugurer quelque chose au baptême, mais tout n'est pas joué au baptême. Et comme, bon, nous-mêmes, on est changeants, on a des hauts et des bas, dans nos ferveurs, dans nos amitiés, dans nos amours, dans à peu près tout, dans nos fidélités aussi, ben, la vie aussi est changeante. Ce qui fait que autant les changements dans ma vie que les changements de la vie m'interpelle constamment à chercher ce qui est juste, ce qui est noble, ce qui est digne, ce qui est vrai, où sont mes identités, mes fidélités. Ce qui fait que constamment, j'ai pas tant à m'adapter, mais à me convertir en réponse aux appels de la vie, aux appels des changements en moi.
Mm-hmm. Que, comme croyant, on identifie aussi comme des appels de Dieu à devenir toujours plus...
Voilà, comme le disait Jean 23, à travers les événements de la vie, sociale, mondiale et personnelle, il y a l'esprit qui parle. Alors, à travers les changements que la vie m'impose, que ma situation personnelle m'impose aussi, nous vieillissons tous, on n'est plus les mêmes à 50 ans qu'on était à 20 ans, et ça veut dire qu'on a à se réapproprier soi-même, on a à réapproprier ses engagements, sa foi, ses amours, et ceci constitue un chemin de conversion.
Et c'est ce chemin de conversion dont vous nous dites, il est signifié par ce sacrement que vous appelez, ou vous nous suggérez d'appeler sacrement de la réconciliation ou sacrement de la pénitence.
Voilà. Ben, le titre officiel maintenant contient les deux mots, sacrement de la pénitence et de la réconciliation.
Ah bon?
Voilà, ça va tout ensemble. Alors, ça prend du 8,5 par 11 sur l'autre oui. bord. Là, pour
alors, c'est le titre
ça.
Officiel, ça.
C'est le titre officiel, sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Parce que, au fond, l'enjeu n'est pas du côté du pardon. Une fois que Jésus est mort sur la croix, hein, imaginez, là, on a fait le plus grand affront. Là. On aurait voulu dire à Dieu, tu n'as pas d'affaire dans ma vie, qu'on n'aurait pas pu faire mieux, comme humanité. Il s'est présenté à nous sous des traits humbles, sous des traits non-violents, et nous, on y a dit « dehors ». On n'accepte pas parce que tu nous remets en question, justement,
ouais,
hein?
Ouais.
Les curés du temps, le peuple du temps, tout ça, mais bon, ils n'étaient pas pires que nous, hein?
Non,
ben, ils sont comme nous. Et malgré cela, hein, sur la croix, Jésus pardonne encore.
Mm-hmm.
Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis au bon larron, ben, avec moi, aujourd'hui, tu seras dans le paradis. Et remarquez, hein, l'extrême dénuement de Jésus sur la croix. D'abord, il est tout nu, il a les bras cloués, il ne peut pas bouger, il est humilié, sa vie est finie, ses apôtres sont tous partis dans la nature.
Il est abandonné, effectivement.
Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. C'est une parole de pardon et elle est imprégné d'une toute-puissance, je dirais. Parce que Jésus s'approprie à ce moment-là ce qui est que du ressort de Dieu, l'accès au paradis. Parce qu'en bon juif qu'il était, il savait très très bien que quand on meurt, on s'en va dans le séjour des morts. Et à ce moment-là, sur la croix, il dit au larron, « Non, toi, on va pas se revoir au séjour des morts. » On va se voir au paradis. C'est qu'il a conscience qu'en donnant sa vie comme il le fait sur la croix, il ouvre une porte jusqu'ici fermée. Et dans notre « je crois en Dieu », on le fait descendre aux enfers. C'est pas en enfer. Hein? Aux enfers, c'est-à-dire le séjour des morts. Et qu'est-ce qu'il va faire là? Il va vider la place. C'est-à-dire qu'il va proposer à chacun, chacune qui est là depuis que l'humanité est humaine, d'entrer au paradis avec lui. Et la réponse, si on dit oui à ça, évidemment, on entre. Si on dit non, ben c'est ça l'enfer. De se croire ou de s'imaginer imperméable, inatteignable par l'amour de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens dans l'enfer? Ben, j'irai pas voir si s'il y en a ou pas.
Non, non.
Donc, Jésus pardonne ce qui, à nos yeux, est impardonnable. Ce qui fait que le pardon, on sait qu'il est là. Et quand on relit tout l'Ancien Testament, Dieu pardonne encore et encore et encore. Il libère le peuple n'est pas rendu de l'autre côté de la mer Rouge, qu'ils se font un veau d'or. Ils vont dire à Dieu, c'est tout un affront. Toi, qui es l'auteur de notre libération, on te remplace par une bébelle qu'on s'est fait nous-mêmes. Et Dieu pardonne encore. Il n'y a pas un seul exemple où Dieu reste campé dans son non-pardon, dans sa
oui.
condamnation.
Et pardon et amour chez Dieu, c'est synonyme finalement.
Et voilà, il n'y a rien de mieux que l'exemple d'une maman. Hein. Une maman qui aime est une maman qui aime par-dessus tout.
Et qui donne par-dessus
pardon. Et ce qui est donné par-dessus tout, c'est l'amour. Alors, quoi que tu m'aies fait, je t'aimerai toujours. Dans Isaïe, il y a un très beau texte où Dieu se compare à une mère, justement. Une mère oublierait-elle son enfant? Eh bien, quand bien même ce serait possible, moi, je ne t'oublierai pas, Israël. Vois, je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Donc, l'enjeu n'est pas du côté du pardon. Dès que nous sommes croyants en Dieu révélé en Jésus, son amour est tel que rien ne peut être en dehors de sa portée. Ce qui fait que l'enjeu n'est pas du côté du pardon, puisque ce pardon nous est
c'est
acquis
ça.
Par la croix.
Mais encore, dois-je l'accueillir? Voilà, ça peut être
voilà.
donné et non reçu, et donc
et voilà.
il faut un don doit être accueilli.
C'est ça.
Donc, ça peut être le sens de la démarche du sacrement.
De la réconciliation, mais cette réconciliation-là, cet accueil du pardon, se fait de plein de formes inimaginables. On en parlera un peu plus tard, mais
oui.
il y a une image qui me vient de Charles Péguy. Il appelle ça la mouillature. Il nous compare à une éponge On a pris conscience à un moment donné qu'on était une belle éponge. Alors, ce qu'on a fait, on a mis 4 couches de vernis, puis on a shiné ça. Et qu'est-ce que ça fait dans l'eau, une éponge vernie? Ben, ça l'empêche de faire ce que ça peut faire, c'est-à-dire de se gorger.
Ben oui.
Et le texte se finit en disant, ben, gare à la petite craque dans le vernis. Parce que la petite craque va permettre à une goutte d'eau d'entrer. Et cette goutte d'eau-là va faire gonfler un peu l'éponge. D'autres petites craques vont s'en suivre. Donc, ce pardon de Dieu, on ne peut pas l'accueillir autrement que dans le développement existentiel de notre vie, et notamment par ces moments pénibles, lancinants, dans lesquels on éprouve le besoin d'un sauveur, d'un salut. Et c'est peut-être ce qui rend tout cela un peu tragique et difficile à porter, parce que c'est à travers ces événements bien concrets et pénibles de notre vie que l'on peut s'ouvrir au pardon et l'accueillir dans notre vie.
Vous me faites réaliser que si le sacrement du pardon est un sacrement mal aimé, comme je disais dans la présentation, c'est peut-être tout simplement parce qu'il est associé à des moments où on ne s'aime pas beaucoup nous-mêmes, c'est-à-dire ces moments où on est un peu désenchanté face à notre propre idéal auquel on n'arrive pas, ou ces moments difficiles dont vous venez de nous parler, que l'on n'aime pas vivre, et ce sacrement est associé à des moments qu'on n'aime pas. C'est pas comme le sacrement du mariage. Ça, c'est le fun, voilà. Le baptême, on est heureux, arrive un enfant.
Alors que ce sacrement-là nous amène à nous redire que sur notre belle pelouse, il y a des pissenlits. Puis nous, on aime mieux regarder le bout, il n'y en a pas. Alors que, veut pas, de temps en temps, justement, parce que Dieu est un Dieu jaloux, qui se contente pas juste des 3/4 de la pelouse qui est belle, il veut que toute la pelouse soit belle. Alors, il nous interpelle à ce chemin de conversion. Puis, on le sait, quand on a bien traité une pelouse et tout ça, on s'assoit 2 minutes, puis le bout par où on avait commencé, ben, il y a déjà des pissenlits qui sont là, il faut recommencer.
Eh oui.
C'est l'histoire de notre vie, au fond.
Pierre, ça fait 10 minutes qu'on parle du sacrement de la pénitence et de la réconciliation, ou du pardon. On n'a pas prononcé une fois le mot péché. Il me semble, il y a 20 ans ou 30 ans, on ne pouvait pas parler de l'un sans tout de suite parler de l'autre. Mmh. Et à la limite, je vais faire la caricature qui n'est plus à jour, je le sais, mais que plein de nos auditeurs et auditrices ont en tête, parce qu'il y en a plusieurs qui sont de mon âge, j'ai la 60aine. Fallait se trouver la liste de péchés qu'on allait confesser, vous savez, quand on avait 10 ans, 11 ans. Personnellement, ça m'a jamais traumatisé. J'ai pas de rancœur, donc j'ai pas de problème à régler ou d'agressivité à vider, là, avec vous aujourd'hui. Mais il reste que ça fait 10 minutes qu'on parle de ce sacrement-là, puis on a trouvé le moyen de pas prononcer le mot péché. Est-ce que vous...
Ben, peut-être parce que ce qui est premier, c'est pas d'abord le péché. C'est l'amour de Dieu, un amour si grand que rien ne peut l'empêcher d'accomplir ce qu'il a à accomplir. C'est sûr que cette période de laquelle nous nous souvenons tous, hein, moi-même, c'était plutôt traumatisant, il y avait un curé qui avait une mémoire d'éléphant, on était tous en ligne, en rang d'oignon à l'entrée de l'église, parce que toute l'école y allait par classe encore. Puis là, il nous prenait un par un, il nous donnait notre adresse, le numéro de téléphone de la maison, puis ce que faisait notre père. Puis après ça, il nous disait, ben, ce qu'on j'entends au confessionnal, moi, l'oublier. Ouais, hein, on y faisait confiance encore, hein. Mais tout ça pour dire que, à ce moment-là, le sacrement, c'est peut-être là son drame, c'est qu'il a été séparé de la vie. Où il était greffé de manière artificielle sur sa vie. Puis c'est pour ça qu'il était pénible. Habituellement, quand on est vraiment dans une situation existentielle où on a l'impression que une partie de notre vie s'écroule, on n'a pas besoin d'une liste de péchés puis de se forcer pour le trouver. On sait ce qui va mal. C'était le caractère artificiel, disciplinaire, qui a trahi l'esprit du sacrement. Mais c'est pas le fruit d'un hasard. C'est le fruit d'une longue histoire qui nous a mené à ça. Et c'est ce qu'on pourrait aborder dans un instant.
Je me permets ici une parenthèse pour vous présenter la musique que vous entendrez au cours de cette émission. Il s'agit du psaume 50, qui est une démarche de réconciliation, justement. Vous entendrez 3 versions différentes de ce psaume, toutes composées dans les années 1700. J'ai toujours sélectionné les versets 13 à 16 de ce psaume 50. Je suis toujours en compagnie de Pierre Murray qui nous parle du sacrement du pardon, qu'on pourrait appeler le sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Pierre, le simple changement de nom indique qu'il y a déjà eu des changements dans l'histoire. Et je disais en présentant l'émission que c'est un sacrement qui a une histoire mouvementée. C'est même dans la description du cours que vous donnez. Alors, est-ce que c'est possible de faire un survol de 2000 ans? D'histoire ou presque.
En deux minutes, oui.
Non, mais disons en 12-15 minutes.
Oui, tout à fait. D'abord, ce qu'il faut constater, c'est que dans les écrits du Nouveau Testament, dans l'Évangile, il n'est jamais question d'un sacrement de pénitence. Très peu question de sacrement, de toute façon. Ce qu'on constate toutefois, c'est qu'il y a deux signes qui sont associés à la rémission des péchés dans l'Évangile. Celui du baptême et celui du sang versé. Donc de l'Eucharistie à la dernière scène. Hein? Le sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et quand Jésus envoie ses disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit pour la rémission des péchés aussi. Ce sont les deux signes. Et on comprend bien que les premières générations de chrétiens étaient très zélées. D'abord, il y avait l'attente de la parousie, du retour du Christ. Eux, ils étaient certains que de leur vivant, Jésus allait revenir. Ça aide à se promener les fesses serrées, ça. Hein? Alors, la conversion est un grand changement dans ma vie. Le baptême, je suis passé du paganisme au christianisme, du judaïsme au christianisme. J'ai reçu le baptême, j'ai rencontré des apôtres qui ont connu Jésus. Les traditions sont vivantes. Je suis fort. Mais le temps a fini par passer. Et les persécutions sont venues aussi. Ce qui fait que le zèle a commencé à s'effriter un peu.
Oui, bien sûr.
Tout naturellement. Et c'est avec les persécutions qu'on s'est retrouvé devant un gros problème. Donc, autour de l'an 100, 120, les premières persécutions. Parce que c'est pas vrai que tous ont résisté à la persécution.
Non, mais non, c'est sûr. C'est une véritable épreuve, la persécution.
Voilà. Ouais. Alors, certains sont morts martyrs. D'autres... devant la pression, carrément abandonnés, ne sont jamais revenus. Mm-hmm. Mais d'autres ont voulu ménager la chèvre et le chou. Et quand la persécution a passé, ils ont souhaité revenir dans la communauté.
Après avoir plus ou moins officiellement apostasié, finalement.
Officiellement apostasié, mais s'être détaché de la communauté. Mm-hmm. Et évidemment, dans leur retour... à la communauté, leur désir de retour à la communauté, ça a posé un problème à la communauté. Puis c'est pas n'importe quelle communauté, c'est une communauté dans laquelle il y a des hommes et des femmes qui ont été tués parce qu'ils ont refusé d'apostasier, comme vous dites, alors que d'autres ont apostasié et tout ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Leur premier réflexe, ça a été bon, ça a été de ne pas leur fermer la porte. Hein? Et probablement parce qu'ils se sont laissés toucher par ce qu'est le pardon de Dieu. Hein? D'autre part, comment on va faire ça? Et on va tout simplement recalquer le catéchuménat. Il y a une préparation pour arriver au baptême. Alors, t'as manqué ton coup, on recommence. Il y a maintenant une préparation pour arriver à la réconciliation. Hein? Pour être réintroduit. On a donc vu ça comme un deuxième baptême.
Ça rejoint bien ce dont vous nous parliez au tout début, à savoir que c'est un processus de conversion. Et donc, ça s'étale dans le temps.
Voilà.
Et non pas comme une formalité ponctuelle.
Ça. Il y avait nécessité d'une conversion avant le baptême. Il y a une nécessité de conversion si on veut revenir dans la communauté. On peut pas redonner le baptême si on avait compris que c'est rien qu'une fois. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est de là qu'est né notre carême. Alors, au début du carême, ceux qui avaient apostasié leur foi à cause des persécutions ou ceux qui avaient commis des crimes publics graves qui contredisaient publiquement la foi chrétienne, alors se retrouvaient au mercredi des cendres avec l'évêque et toute la communauté et là portaient des signes de pénitence, d'humiliation, pour montrer qu'ils étaient bien peinés de ce qu'ils avaient fait. D'où les haillons, d'où les cendres, comme Job, hein, dans
ben
son
tas de cendres. C'est exactement ce que j'avais à l'esprit.
On n'a rien inventé. Et les pénitents allaient voir l'évêque et lui disaient leur faute.
D'accord.
C'était une faute grave.
Oui.
Il n'y avait rien d'inconnu puis de secret.
Déjà public, donc. Ça pouvait être un aveu public puisque c'était déjà connu.
C'était déjà public. On savait tout déjà. Et on reprenait l'attitude du catéchumène. À le dimanche à la messe, on assistait jusqu'à la fin de la liturgie de la parole et au début de l'anaphore, on se retirait. Et on était à ce moment-là dans l'ordre des pénitents. Et on était réintroduit par l'évêque dans la communauté au samedi saint. Petit à petit, on a devancé ça au jeudi saint pour permettre aux pénitents de communier au samedi saint. Mais comme c'était calqué sur le baptême, si le baptême est one shot, le sacrement est one shot. Ça a créé un autre problème, ça.
Attendez, je vais être sûr de vous comprendre. Qu'on soit baptisé une seule fois, ça va. Là, ce que vous me dites, c'est on est, disons, au 2e, 3e siècle de l'Église.
Oui.
Vous me dites, le sacrement du pardon se donnait une seule fois. C'est ça, votre one-shot, là?
C'est ça, parce qu'il est calqué sur le baptême. On le voit comme un second baptême.
Donc, ceux qui n'avaient pas apostasié recevaient jamais le sacrement du pardon. Ils l'avaient
voilà.
reçu avec le baptême comme un tout, disons.
C'est ça.
Et là, tu avais droit à un sacrement du pardon spécial.
Voilà. Parce que pour nos manques de prière en se couchant, puis tout ça, là.
Ouais, ouais.
Bon, ben, il y avait l'aumône. Et il y a toujours
l'aumône.
Il y
avait des œuvres de pénitence.
Il y a l'Eucharistie. Il y a des pratiques pénitentielles de conversion. Mais c'est sûr, si j'oublie ma prière, je vais me forcer pour la faire. C'est ça un chemin de conversion. C'est de remettre dans ma vie les morceaux qui manquent.
D'accord.
Ou d'enlever de ma vie les morceaux qu'il y a de trop. Mais c'est pas toujours dramatique.
Puis ça a pas besoin de ce sacrement comme tel. Et donc, ce sacrement, c'était une fois dans la vie.
Voilà. Mais la pratique, l'homme faisant de l'hommerie, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on prendra pas de chance. Parce que si c'est juste une fois, puis que je le fais à 40 ans, puis que je vis jusqu'à 75 ans, qu'est-ce qui va se passer si je retombe à 50 ans? Alors, les gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils amenaient ça à l'extrême de la vie. Ben, c'est pour ça que l'extrême onction a une valeur de réconciliation. Ça date de ce temps-là aussi, hein, parce que les paroles de l'extrême onction disent qu'il y a un pardon. Qui
oui, bien sûr.
Voilà. Alors, on attendait à la fin.
Okay.
Là, l'Église, la communauté a bien vu que ça n'avait pas de sens.
Non plus.
Hein? Alors, on vivait une bonne partie de sa vie sans pouvoir participer à l'Eucharistie, par exemple.
Parce que c'était lié à un état, si tu avais commis des péchés graves ou
voilà.
tout ça.
Voilà. Parce que j'étais lié justement à ces péchés-là.
Ouais.
Et l'activité de l'Église, qui consiste à me délier de ça pour me rendre pleinement participant de la vie de Dieu et de la vie de la communauté, avait pas lieu.
Avait pas lieu parce que tu pouvais l'avoir juste une fois dans ta vie et qu'un homme prudent t'attendait à la fin de ta
voilà.
vie.
Voilà. Et là,
Seigneur.
Les bons moines irlandais sont venus à notre rescousse. Parce que eux avaient une pratique dans leur monastère qui était pas toujours sacramentelle. On pouvait faire ça avec un moine en disant « Comment je vais vivre ma conversion? » Et pour ça, ben, on va se voir seul à seul et on va discuter. Et mon guide, celui qui entend mes propos, mes malaises, mes drames, va me conseiller quant aux actions à poser pour vivre cette conversion.
De ce retour vers Dieu.
C'est ça. Et petit à petit, les gens qui vivaient autour du monastère se sont mis à vivre comme ça.
Et donc, à venir parler avec les moines. Et
voilà.
Alors, ça devenait comme une rencontre avec un guide spirituel.
C'est ça. Et il n'y avait pas toujours une absolution, mais petit à petit, on s'est mis à associer cela à une absolution. Les moines irlandais sont allés réévangéliser du côté du continent et ce qu'on appelle leur pénitence tarifée, qui ressemble un peu à la nôtre, a commencé à s'installer. Parce que le problème, c'est qu'il y a des curés qui étaient plus zélés que d'autres.
Pouvez-vous juste nous dire à quelle époque vous êtes rendu quand vous nous parlez de ça?
À partir du 5e, 6e siècle, d'accord, dans ces eaux-là. Parce que la pénitence antique, une fois, ça s'est terminé vers le 4e siècle, la fin du 4e siècle. Alors, ça a pris, il y a eu des entre-deux. Et les moines irlandais ont introduit leur nouvelle façon de faire, mais c'était un peu laissé à l'arbitraire du bon confesseur. Et le bon confesseur, il y en avait qui étaient raides et d'autres qui étaient moins raides.
Avec leurs pénitents.
Et voilà, parce ouais, que l'idée, c'était qu'ils proposaient un geste à poser.
Ah oui, de réparation.
On allait poser le geste, puis ensuite, on revenait chercher l'absolution.
Ah oui.
Ce qui fait qu'il y a des prêtres qui exagéraient. C'est à ce moment-là qu'on s'est mis à faire des manuels, des livres, des pénitentiels, où une certaine proportion s'établissait entre la faute et la pénitence, c'est-à-dire le geste de conversion qu'on imposait. Tout ça dans un souci de justice. Mais où est-ce qu'il y a de l'homme? Il y a de l'hommerie. Alors, on s'est mis à dire, si j'ai fait une grosse faute, je me ramasse avec une grosse pénitence. Y a-t-il moyen de convertir ça? Si je vous donne 20 piastres, monsieur le curé, ça peut-tu amenuiser l'affaire?
Puis le curé a dit non, mais ben, non.
Jamais en 100 ans. Alors, ça aussi, où ma fille est bonne sœur dans un monastère. Hein, Galilée.
Est-ce que ça peut compter pour moi ou non?
Galilée, quand il avait reçu ses pénitences, il devait faire 5 rosaires par jour pour le tenir occupé, pour plus qu'il dérange les gens. Ben, il avait réglé l'affaire. Il avait refilé ça à sa fille qui était au monastère.
Je vois.
Alors, ce trafic-là a été brisé au Concile de Trente.
C'est ce que vous appelez la pénitence tarifée.
Voilà. Où on a voulu inscrire une certaine proportion entre le geste proposé pour vivre une conversion
et la faute commise. Alors, tarif, donc le prix à payer pour... Voilà. C'est le mot tarif là, que je viens de comprendre.
C'est ça.
Pierre, l'autre dérive que je vois dans l'évolution dont vous venez de nous parler, c'est que ça amène vraiment à concentrer ce sacrement-là sur la liste des fautes et la liste des péchés, alors que c'était pas ça... avant, et bon, cette espèce de retour de l'apostasie, ça on peut comprendre, et même le tournant des moines qui deviennent des guides spirituels et qui sont les confidents avec qui on peut parler honnêtement de nos insatisfactions dans notre relation à Dieu, de nos manquements, là encore on n'est pas dans la liste d'épicerie des péchés,
non.
Mais voulant rendre juste... une peine qu'on peut imposer à quelqu'un qui a manqué, on finit avec une liste de péchés puis de prix à payer. Sans qu'il y ait mauvaise part.
Non, c'est l'évolution.
C'est une sorte de dégradation du truc que personne n'a vu venir, finalement.
C'est une
finalement.
Dérive, dans le fond, d'une bonne idée.
Voilà, c'est une dérive d'une bonne idée.
Voilà, un de mes professeurs disait qu'une hérésie, c'est une vérité qui part en peur. Alors, il y a quelque chose de bon là-dedans au départ.
Oui.
Mais on finit par... l'effriter et la trafiquer.
Et sans même le vouloir, finalement.
Voilà.
C'est un peu triste comme dégradation.
Voilà.
C'est dommage.
C'est triste. Mais en même temps, ce qui se passe aussi, c'est que les gens ont délaissé la pratique de l'Eucharistie et au Moyen Âge. Là, les gens ne communiaient plus. Et c'est comme ça que le Concile de Latran IV a mis cette loi-là. Écoutez, il faut communier au moins une fois par année. Puis le mieux, c'est à Pâques, parce qu'on est dans le riche de l'affaire.
Oui.
Puis évidemment, puisque on vit dans un monde, à ce moment-là, au Moyen-Âge, qui est pas rose, là. C'est des guerres, c'est de l'injustice, la police est pas là, c'est pas rose.
Mm-hmm.
Alors on dit, ce serait peut-être bon, une fois par année, aussi, de se confesser.
Parce que si les gens ne communiaient plus, je présume que c'est parce que dans la perception qu'on leur transmettait, il faut être digne pour communier, donc il faudrait s'être confessé, pas être trop pécheur.
Voilà. Et l'idée, c'était de dire qu'il y a un chemin de conversion. Et l'Eucharistie est une nourriture sur ce chemin de conversion.
Oui, et non pas l'espèce de sommet auquel tu as droit si tu as franchi toutes les étapes et que tu arrives blanc comme neige.
C'est ça. Alors, il faut quand même donner du crédit aux pères conciliaires, là. Leur réforme était bien intentionnée. C'est souvent dans l'accueil que ça se gâte, dans la pratique. Alors, ils ont fait ça, sauf que si on fait un grand saut, tant qu'on va communier une fois par année, c'est faisable et peut-être une bonne chose de s'asseoir une fois par année pour faire le point d'où on en est dans sa vie.
Aussi dans sa vie spirituelle, dans sa vie spirituelle,
dans sa vie de justice, parce que le péché concerne tout ça.
Absolument.
Où j'en suis dans ma vie. Une fois par année, c'est faisable et réaliste.
Mm-hmm.
Là où ça se gâte, c'est qu'au début du 20e siècle, en 1905, Léon XIII, je pense que c'est lui, nous donne la permission et nous incite à communier plus souvent. Et cette fois-là, ça marche. Depuis le Moyen Âge, l'Église incite les gens à communier plus souvent, ça marche pas. Au début du 20e siècle, ça marche. Bon, il y a tout un contexte en Europe de persécution, tout ça, donc de raffermissement de l'identité chrétienne. Comme on reçoit le baptême une fois dans notre vie, c'est pas autour de ça, ça va jouer. C'est autour de l'Eucharistie.
Mm-hmm.
Et ça marche à ce moment-là. Sauf qu'on reste pris avec cette mentalité qu'avant d'aller communier, il faut aller se confesser.
Il faut se confesser. Il faut arriver propre et net.
Et voilà. Comment est-ce qu'on peut faire ça une fois par semaine? C'est tout un contrat à ce moment-là.
Mm-hmm.
Et est-ce qu'on pêche mortellement? Parce qu'il faut toujours se rappeler que toute cette démarche de réconciliation est venue du fait que j'ai fait quelque chose d'excessivement grave qui a rompu, qui a tué mon lien avec Dieu et avec la communauté.
C'était ça au début.
Au début, mais c'est encore ça. Même Thomas d'Aquin va nous dire qu'il n'y a de péché que mortel. Quand on parle de péché véniel, c'est au sens analogique, et c'était vraiment à reculons qu'il utilisait cette expression-là.
C'est avec le mot péché, c'est ça qu'il voulait
voilà.
pas. D'accord.
Péché, c'est quelque chose qui rompt la relation.
Donc, c'est vraiment quelque chose de grave.
Et qu'on fait pas 12 fois dans sa vie.
Alors, toute l'évolution du sacrement du pardon dont vous venez de nous parler avait oublié ça aussi.
Et voilà, parce que entre autres, le jansénisme était passé, puis cette espèce d'insécurité, puis le scrupule et
bon, la crainte de pas aller au ciel, puis bon.
Tout ça était mêlé. Oui, il fallait faire un ménage que Vatican II a amorcé.
Je suis toujours en compagnie de Pierre Meuret qui vient de nous faire un survol à vol de navette spatiale de l'histoire du sacrement du pardon depuis 2000 ans, qui nous a dit que Vatican II avait innové ou essayé de faire le ménage dans un sacrement qui avait tous les défauts qu'on lui connaît pour plusieurs de nos auditeurs. Je rappelle que le Concile Vatican II, ce sont les années 60. Donc, il y avait un ménage à faire, Pierre.
Oui, et souvent, on a interprété le Concile comme étant très prophétique parce qu'il a mis en place des ouvertures, alors que la situation n'était comme pas encore là. Hein? Les églises étaient encore pleines et tout ça. Puis après ça, on lit le Concile et on se dit, il est parfait pour la situation que nous vivons présentement. Sauf que, pour le sacrement du pardon, on associe beaucoup la chute de la pratique du sacrement du pardon aux années du Concile. Alors qu'il y a des études en France qui démontrent que dès les années 50, moins de la moitié des gens se confessaient une fois par année. Ce qui fait que le Concile dit peu de choses à propos du sacrement du pardon, sinon que probablement il encaisse il prend acte de ce changement de pratique et il ordonne à la congrégation qui s'occupe de ça de pondre un nouveau rituel. Et si le concile s'est fini autour des années 65 à peu près, 66, le nouveau rituel va arriver uniquement en 1974. Parce que il a révolutionné les choses. Mm-hmm. D'abord, quand il est question d'un sacrement, habituellement, il n'y a qu'une seule forme pour célébrer un sacrement. Un baptême, il y a juste une forme dans le rituel. L'Eucharistie, il y a juste une forme dans le rituel. Mm-hmm. On a plusieurs prières eucharistiques, ouais. Mais elles jouent la même fonction. Oui. Les choses sont dans le même ordre et ça va toujours pareil. Pour ce qui est du sacrement de la réconciliation, c'est différent. Il y a au moins trois formes et une interpellation à en trouver d'autres.
Trois formes vraiment différentes?
Vraiment différentes. Eh ben. On garde toujours le tête-à-tête entre le prêtre et le pénitent. On inaugure des célébrations, on est tous ensemble dans l'église, et à un moment donné, on va rencontrer individuellement le prêtre en tête-à-tête, et on y reçoit l'absolution.
Et pendant que tout le monde est tous ensemble, il y a une réflexion,
Une prière, une méditation.
Une méditation, voilà. D'accord.
Ensuite, il y a de prévu dans le rituel, toujours, cette célébration où on est tous dans l'Église, où on confesse ensemble l'amour de Dieu et le péché qui nous habite, et on reçoit ensemble l'absolution.
Alors, ce qu'on appelle l'absolution collective.
Collective, c'est ça. Là où le rituel innove aussi, c'est qu'il interpelle quant à l'importance, à chaque fois, d'abord, de se référer à la parole de Dieu, même dans la rencontre privée. Inutile de dire que ça n'a pas passé.
Ah non?
Dans la pratique, dans les confessionnaux, il fait noir. Ouais. On ne lit pas la parole de Dieu. Voilà, donc...
Ouais. Donc, une référence à la parole de Dieu, c'est nécessaire. Conseillé ou c'est même... Okay,
c'est prescrit.
Prescrit.
On doit aussi d'abord confesser l'amour de Dieu.
Bien sûr, sinon ce sacrement-là n'a pas de sens, comme tous les autres.
Et ensuite... On va parler de nos fautes, de nos manquements, de nos soucis de conversion.
Oui, et c'est par rapport toujours à cette bonne nouvelle du salut qui est offert. Ça se ferait bien en deux personnes, le prêtre et la personne assise dans un bureau où il y a de la lumière, mm-hmm. ou tout ça, mais c'est évident que
mais le pour rituel,
confessionnal, c'est pas avec à genoux puis tout ça,
non,
ça marche pas.
Ça marche pas, c'est pour ça que le rituel demande à ce qu'on décloisonne. Ça va jusque dans ces détails-là. On va décloisonner les confessionnaux.
Pierre, est-ce qu'il y en a encore des confessionnaux?
Il y a encore des églises où on ne l'a pas fait, de décloisonner les confessionnaux. Et quand je vois les jeunes générations, parfois j'ai l'impression qu'on revient à reconstruire les confessionnaux dans certains coins. Mais l'important n'est pas là. C'est de voir que le rituel a ouvert bien des choses et notre réception a été bien timide. C'est sûr que dans les célébrations communautaires avec aveu individuel ou avec absolution collective, là, il y avait la parole de Dieu.
Oui.
Mais est-ce qu'on a d'abord pris le temps de confesser l'amour de Dieu? On allait vite à une introspection pour chercher des bébites. Parce que dans le fond, nous, on est crispés sur notre besoin de pardon pour calmer notre sentiment de culpabilité, alors que le sacrement nous propose un chemin de conversion à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain. Ce fait qu'il y a des chemins qui ne se rencontrent pas. Et la baisse de pratiques religieuses du sacrement, de la pénitence et de la réconciliation, continue à se manifester.
Parce que l'esprit de ce qu'il y avait dans le nouveau rituel et l'intuition de Vatican II n'a pas été mis en œuvre.
N'a pas été saisi. Même notre manière d'inscrire l'absolution collective, par exemple, quand ça se faisait, ou dans certains coins, ça se fait encore, on est encore crispé sur la notion de pardon. Alors que, quand on y pense,
et de péché.
Le pardon de Dieu, on l'a au baptême, on l'a à l'Eucharistie, puisque on fait mémoire de ce par quoi tout nous est pardonné, le sang versé pour la rémission des péchés. On l'a au rite pénitentiel, et d'ailleurs la nouvelle présentation du rituel romain qui vient de sortir change l'appellation de la prière pour demander pardon. Dans l'ancienne présentation, on la présentait comme ça, prière pour demander pardon.
Oui.
Et là, on parle de prière d'absolution qui conclut le rite pénitentiel.
À l'intérieur de l'Eucharistie.
À l'intérieur de l'Eucharistie. Bien sûr, on fait une parenthèse pour dire que c'est pas sacramentel.
Oui.
Mais n'empêche qu'une absolution, c'est une absolution. Ça nous dit que le pardon de Dieu nous arrive de partout. Il y a la contrition parfaite. Il y a l'aumône. Il y a les bonnes actions. On peut s'ouvrir au pardon de Dieu et le laisser s'exprimer dans notre vie de mille manières.
Sans passer par le sacrement. Vous disiez que dans le nouveau rituel, il y a plusieurs formes possibles. Est-ce qu'elles sont toutes sacramentelles ou il y a d'autres formes de liturgie qu'on pourrait faire, du pardon et de la réconciliation, qui ne seraient pas des sacrements?
Ouais, le rituel n'en propose pas comme tel, mais incite à la grande créativité pour en mettre en œuvre.
Mm-hmm.
Et j'ai lu quelque part récemment quelque chose qui est bien intéressant, et si j'étais encore en paroisse, avec joie, je l'essayerais, si évidemment les paroissiens embarquaient. C'est que, disons que, pour le temps du carême, au début du carême, on se réunit tous ensemble, et c'est une liturgie pénitentielle non sacramentelle.
Ouais.
Alors, on chante, on a la liturgie de la parole, il y a une prédication, on confesse l'amour de Dieu, on le reconnaît présent, vivant, agissant dans notre vie, et on a un regard critique aussi sur notre vie de baptisé. Est-ce qu'on est à jour à la hauteur de cet amour, de cette justice, de cette vérité, etc.?
Oui.
Et pendant le temps du carême, chacun fait son bout de chemin.
Donc, la liturgie dont vous venez de parler est comme l'amorce.
Et voilà.
Pour un chemin de carême ou un chemin de conversion.
Et chacun y va selon son chemin. Si moi, j'ai une réconciliation familiale et cette célébration-là me donne le courage de l'audace, ben je m'assois en famille et je vis ce que j'ai à vivre.
Et je me réconcilie avec les gens ou je demande pardon à quiconque que j'ai pu faire du mal.
C'est ça. Si c'est dans un changement d'attitude ou si c'est dans... Tu sais, on est loin d'arrêter de manger du chocolat, là. C'est de voir comment je peux travailler sur un aspect de ma vie pour être davantage chrétien. Et peut-être que là-dedans, ce serait de rencontrer le prêtre pour avoir une bonne jase, qui va se terminer ou non par le signe sacramentel.
Selon ce que chacun va décider avoir besoin.
Et à la fin du carême, on se réunit pour rendre grâce à Dieu qui a été présent sur le chemin de chacun pendant le carême, qui a été un chemin de conversion, et pour lui rendre grâce aussi de nous avoir donné son pardon, c'est-à-dire l'assurance que son amour est toujours là, quoi qu'on fait, quoi que sont nos paresses et nos négligences. Et c'est ce pardon-là qui est constamment offert,
oui,
qui rend possible ce chemin de conversion.
C'est intéressant, cet exemple, parce qu'il s'inscrit dans le temps réellement. Donc,
oui,
il marque bien un cheminement, un processus.
C'est ça. Et ça permet aussi d'avoir une multitude de chemins qui correspondent à une multitude d'histoires de vie. Et le rituel est très clair pour dire qu'on peut vivre la réconciliation, on peut vivre la pénitence qui est ce chemin de conversion, pas uniquement dans le sacrement, mais aussi, parfois, la situation l'exige, on le sent, ou le prêtre peut nous interpeller,
mm-hmm,
aussi. Il y a un dialogue qui est là. Le but, c'est pas de se punir puis de se rabaisser, c'est de se donner les moyens de répondre encore mieux à tout cet amour que Dieu,
oui,
nous donne pour qu'on en soit encore plus témoin. Et peut-être que pour redécouvrir le sacrement de la pénitence et de la réconciliation, il faudrait redécouvrir qu'il y a des moments charnières dans notre vie où on rompt des choses. Mais ça, c'est pas une fois par semaine, c'est pas une fois par année. Quelquefois dans notre vie de chrétien, je pense qu'il peut arriver que nous ayons fait ou que nous ayons développé une attitude telle que notre lien à Dieu et à la communauté à l'Église soit mort. Alors, à ce moment-là, il est peut-être bon de s'asseoir, puis de dire, où sera le nouveau point de départ? Et ça, je ne peux pas le faire seul, j'ai besoin de Dieu et l'Église et le sacrement de Dieu pour ça.
Mm-hmm.
Et tout comme un départ est souligné dans la relation avec Dieu par le baptême, un nouveau départ a besoin d'être souligné aussi par un sacrement.
Oui.
Mais ce n'est pas le sacrement du quotidien.
Mm-hmm.
On peut peut-être, dans une certaine spiritualité, dans le développement d'une direction, d'un accompagnement spirituel suivi, régulier, oui, inscrire ça dans une extension du sacrement. Mais ce n'est peut-être pas la manière usuelle de le faire.
Mm-hmm.
Il faut vraiment saisir que pour les péchés graves, une action grave doit être posée.
Et si cette action-là, on la pose toutes les semaines ou on dit aux gens qu'ils devraient se confesser tous les mois, elle perd de son poids, perd de sa gravité, puis il ne reste plus rien quand on a besoin de vraiment quelque chose de grave.
Et on diminue, on rétrécit le trésor de l'Église, qui encore une fois, par l'Eucharistie, qui est un chemin de conversion et de pénitence.
Oui.
Pénitence au sens propre, qui est traduction latine et française du mot conversion.
Oui, oui.
L'aumône, la prière, la lecture de la parole de Dieu, la contrition.
Oui.
Vous savez, une fois dans ma vie, j'ai rencontré une femme qui avait commis ou subi un avortement. C'était pas du tout en confession qu'elle a dit ça. Et elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit « Plus jamais on va m'y reprendre ». Et j'ai tendance à croire cette femme.
Mm-hmm.
Et j'ai tendance à croire dans ce qu'elle m'a dit, à voir dans ce qu'elle m'a dit une contrition parfaite.
Oui.
Est-ce que ça peut toujours se faire sans que nous nous disions les choses? Je ne crois pas.
Mm.
Mais il faut doser les choses. Et je pense que la redécouverte du sacrement de la pénitence et de la réconciliation va se faire non pas par un resserrement disciplinaire, mais par une redécouverte de l'importance de la parole échangée aux moments cruciaux de notre vie.
Mm-hmm.
Parce que dans l'aveu, ce fameux aveu, se dit là une phrase qui est absolument unique. Elle est au « je ». Je confesse l'amour de Dieu, je confesse que par mes actes, mes paroles, mes attitudes, j'ai blessé cet amour. Et cet aveu, ça c'est Ricoeur qui nous l'a montré, ne peut se dire, cette reconnaissance de la culpabilité de la faute ne peut se dire que dans l'aveu. Et je peux bien, moi, m'imaginer que Dieu me pardonne, mais quand j'ai un homme assis en face de moi, que je connais pas, que je contrôle pas, à qui je dois rien puis qui me doit rien, qui me dit, mon frère, je te pardonne tous tes péchés au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, voilà une phrase qui me dit l'altérité de Dieu qui me pardonne.
Mm-hmm.
Et ça, j'en ai besoin aussi dans ma vie spirituelle, dans ma vie d'homme et de croyant. Et je pense que c'est vrai pour tout homme, toute femme croyant sur terre. Donc, il y a une redécouverte à faire, mais cette fois-là sur des bases qui sont à la fois plus bibliques, plus historiques, plus traditionnelles, et qui vont plus dans le sens de ce que le nom annonce, un chemin de conversion.
Oui, qui met l'accent d'abord, je le redis parce que je trouve ça important, sur on confesse d'abord l'amour de Dieu, qui est toujours premier, et ensuite, comment on confesse, en quoi on a pu manquer ou se dérober à cet amour-là. Voilà. Mais d'abord, non pas je confesse à Dieu Tout-Puissant,
non.
Mais...
Je confesse à Dieu tout aimant.
Oui.
Hein? Puisque sa toute-puissance, oui, c'est dans sa capacité d'aimer par-dessus tout, donc de pardonner. Et celui que je rencontre quand j'avoue, Ce n'est pas le Dieu juge.
Non, bien sûr.
C'est le Dieu qui m'aime, c'est mon Père, celui qui est prodigue et qui me réintroduit dans une dignité que par moi-même je ne pourrais pas atteindre, comme le fils de la parabole qui voulait juste revenir comme un serviteur, mais on lui a remis l'anneau et les sandales, signe de sa dignité. Il n'en espérait pas tant, et c'est ce que Dieu nous donne dans ce beau sacrement.
Eh bien, Pierre-Marie, merci d'avoir fait le tour comme ça d'un sacrement dont je disais qu'il est mal aimé. Je dirais bien maintenant qu'il est mal connu.
Surtout.
Mal compris et probablement mal vécu.
Oui.
Et je suis heureuse d'apprendre que à partir de Vatican II et maintenant, on peut ouvrir autrement à des liturgies qui soient tant sacramentelles que non sacramentelles pour manifester quelque chose qui est important, qui est constant, qui est la bonne nouvelle de Dieu, du pardon, du salut. Pierre, merci de nous l'avoir fait redécouvrir.
Ça a été un grand plaisir.
Encore un grand merci à Pierre-Marie pour ce tour de piste sur le sacrement du pardon ou de la réconciliation. Je reviens à la musique diffusée pendant cette émission, tirée d'un CD intitulé Miserere, qui est un titre classique en latin pour le psaume 50. Elles ont toutes été composées au début du 18e siècle pour les liturgies de la chapelle Sixtine. La première était de Francesco Scarlatti et la seconde de Gregorio Allegri. En fin d'émission, vous entendrez encore les versets 13 à 16, donc toujours les mêmes versets. Cette dernière composition est de Leonardo Leo, de la même époque. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute de cette émission produite par l'équipe de l'Institut de Pastoral des Dominicains pour Radio Ville-Marie. Au microphone, c'est Francine Robert. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée sur les ondes de Radio Ville-Marie.